Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, cette semaine dernière, nous avons rencontré Aimé Faure, qui était originaire de Grolsjac, et qui est parti en Algérie, ou plus exactement à Sétif, faire son service militaire, qui à la fin du 19e siècle était de 5 ans. Il sait prendre une jeune Kabyle qui l'amène à Grolsjac, où bien sûr elle deviendra l'étrangère, bien que convertie au catholicisme et rebaptisée Jeanne. Alors, ce livre s'appelle L'étrangère de Grolsjac, et donc il est écrit par Mireille Picaudou, Arpaillange, et il y a une petite précision, drame et secret de famille au cœur du Périgord, et c'est distribué par Terre d'Histoire. Voilà, et c'est un livre qui est tout récent. Alors donc bien sûr, la religion va changer pour cette jeune femme, et voilà ce qu'elle nous dit. La religion chrétienne est pour cela différente de la mienne. Il fallait plus d'un an de préparation avant que je ne puisse vraiment être une chrétienne. À notre arrivée à Grolsjac, je savais que cela poserait un problème. Nous avions parlé avec Aimé. La maison possédait assez de pièces pour que nous dormions pas dans la même, tant que leur croyance ne m'intéressait pas vraiment. Mais mon mari refusa tout net cette solution qui aurait amadoué sa mère. Il préféra affronter sa désapprobation et, je suppose, celle de tout le village au courant de la situation. Son envie de mon corps était telle qu'il ne voulait plus attendre. Nous connaissions depuis plusieurs années. Pendant le voyage, nous avions été comme frères et sœurs et jamais il n'avait essayé de posséder mon corps. Mes camarades de Sétif qui m'accompagnaient au hammam m'avaient bien ri de moi pour cela. Je n'étais qu'à moitié marié, disait-elle. Mais en arrivant chez lui, mon mari avait décidé de le devenir totalement et c'est ce qui se passa. Nous partageâmes la chambre dès le premier soir et ma belle-mère en fut choquée pour le restant de ses jours. Je crois pouvoir affirmer maintenant que je la connaissais mieux, que sa préoccupation n'était pas tant Dieu. Qu'en dira-t-on ? Je remarquai qu'une expression que je ne comprenais pas au début revenait souvent dans ce qu'elle disait. Mais qu'est-ce qu'on va dire ? Et puis, quand j'ai commencé à connaître le patois, je me suis souvenu de cette préoccupation existait chez nous également. Alors, à l'intérieur d'un clan ou d'un village, nous n'étions pas indifférents sur certains plans. Nos habitudes, en revanche, n'étaient pas toujours les mêmes. Elle m'avait interdit, par exemple, de nettoyer le sol à grande eau. J'avais toujours vu les femmes déverser un seau d'eau sur la terre battue des gourbis ou à la caserne sur les carrelages, et je faisais de même. Madame Joséphine avait hurlé la première fois qu'elle avait vu des plaques sur le plancher de bois de la cuisine. Elle s'était précipitée sur moi et j'ai cru qu'elle allait me battre. Mais non. Elle avait crié un bon moment et une fois sa colère un peu calmée, elle m'avait expliqué que tous les jours, on ne passait que le balai, frotter le plancher avec une brosse et du savon ne se faisait qu'une fois par an l'été, quand il faisait chaud et que ça séchait facilement. Je m'étais bien gardé de répondre, mais je m'étais dit qu'à Sétif, il faisait bien aussi froid qu'ici. Je trouvais le sol dégoûtant et je surveillais qu'Henri ne s'y traîne pas trop à quatre pattes. Alors, Henri, c'est son fils. Voilà, alors donc on va poursuivre un peu cette histoire de cette Kabyle qui va se retrouver à Grolsjac. Voilà, alors il y a bien sûr, le progrès arrive vite, hein, mais la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Le progrès arrive, comme je viens de le dire, rapidement. Une voie de chemin de fer relie Gourdon à Sarlat avec un arrêt à Grolsjac. Cours d'un voyage jusqu'à Gourdon pour acheter des médicaments pour sa belle-mère, elle est violée dans un wagon. Enceinte, elle se réfugie à Bordeaux chez des cousins de son mari sans enfants qui adopteront sa fille à sa naissance. Alors voilà un peu ce qu'elle nous dit. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je suis rentré à Grolsjac. À la maison, la vie a repris son cours comme si rien n'était arrivé. Harry a beaucoup changé durant les mois où je suis resté à Bordeaux. Et nous n'avons plus des liens aussi étroits. Il est maintenant toujours à l'atelier avec son père et m'adresse très peu la parole. C'est comme si j'avais perdu deux enfants. Moi aussi j'ai changé, je suis déchiré, une partie de moi est restée à Bordeaux. J'ai dû quitter ma petite fille. On sait qu'Anastasie l'aime et prendra bien soin d'elle. Elle l'a appelée Rose, mais pour moi elle restera toujours Tiziri. Je l'ai nommé ainsi dans mon cœur de ce prénom berbère qui veut dire clair de lune. Je sais que nous nous rencontrons à nouveau un jour. Je ne serai pas sa mère, mais la filleule de sa mère, Anastasie. Une femme mariée au cousin d'Aimé. Rien de plus, je ne sais pas comment je vais supporter cette idée. Souvent, quand je m'en rends compte, des larmes coulent sur mes joues. Quand je travaille dans la maison, le jardin, que je conduis la jardinière, que je m'assois quelques minutes sur les rives de la Dordogne, mais je parviens à me contrôler quand je ne suis pas seul et à donner le change à mes proches et au voisinage. L'autre jour, j'ai surpris une conversation entre Madame Joséphine et Aimé. Joséphine, bien sûr, c'est sa belle-mère. Je supposais bien que les gens parlaient et que ma longue absence avait éveillé des curiosités. Ma belle-mère se plaignait à son fils. Je crois que ces hommes ont parlé, donc les deux personnes qui ont violé la jeune femme. Je crois que ces hommes en ont parlé, ils se sont vantés de ce qu'ils avaient fait. Des bruits circulent, je fais comme si j'entendais rien, mais je ne peux pas laisser passer. Tu ne feras rien, tu ne dis rien, les choses vont se calmer, bientôt les gens vont trouver un autre sujet de racontard. Alors mon mari avait répondu d'un non sans réplique à sa mère, et moi, il ne me parle jamais de rien, comme si les derniers mois avaient été effacés. Au lit, nous avons parfois des rapports de mari et femme, mais je ne sens rien et je ne peux pas, comme avant, tout accepter. Aimé fait comme s'il ne s'apercevait de rien, j'ose pas aborder le sujet, moi aussi je me tais. Nous nous taisons tous, le jour après jour, nous faisons semblant, le secret reste enfoui en même temps, il est toujours présent. À la maison, il flotte autour de nous comme une odeur de pourriture qui imprégnerait l'air dans la cuisine quand nous sommes réunis pour le repas et dans la chambre que je partage avec Aimé. Alors voilà donc résumer un peu cette histoire. Alors l'ancêtre de Lucille, donc c'est l'héroïne de ce roman l'entraînera une nouvelle fois à Groljac. Ça lui viendra, je crois, pour la troisième fois où le voile sera levé par des personnes âgées sur cette histoire de viol. Puis à Sétif, ville où une carte postale avait été postée par Aimé, jeune militaire à l'époque. Et donc elle va se rendre, bien sûr, sur la terre un peu de ses ancêtres. Hein. Voilà ce qu'elle nous dit de cette arrivée. Sur Alger, Alger m'apparaît au petit matin, étagé sur ses collines, ocre avec les hauteurs et blanche sur les quais, dans sa beauté de cité méditerranéenne. Moi, j'ai vu des photos de la ville, je savais à quoi m'attendre, mais qu'avait ressenti le soldat fort en découvrant ce nouveau continent, quelle pensée occupait son esprit, quelle crainte, quelle curiosité. Le fait qu'il ait osé épouser une indigène et la ramener chez lui me semble penser que même s'il était peu éduqué, il avait ouvert à l'inconnu, et après avoir débarqué dans les tourbillons des passants qui emplissent les rues commerçantes du centre, je l'imagine découvrant les silhouettes blanches des femmes voilées par le haïk qui, à l'époque, était la norme à Alger. Aujourd'hui, cette tenue traditionnelle a presque disparu au profit du foulard islamique venu du Moyen-Orient, comme l'expliquait une jeune Algérienne avec qui j'ai sympathisé à bord du ferry. Demain, je prends le train pour Sétif, j'aurais pu profiter un peu plus de la capitale, mais j'ai hâte de découvrir la ville de Dia. Alors Dia, évidemment, c'est son ancêtre. Alors dès le lendemain matin, je suis dans le train qui me conduit à El Arach, dans la banlieue d'Alger à Sétif. J'ai devant moi un peu plus de 4 heures pour atteindre cette ville où a vécu mon ancêtre. J'imagine bien qu'elle n'a plus rien à voir avec ce cantonnement de soldats, peuplé de casernes, créé par l'armée française au moment de la conquête. Les lumières du matin cisèlent les sommets et les ravins lorsque nous traversons la montagne des Bibans, et je ne regrette pas d'avoir choisi le train plutôt que l'avion. Et Dia, de quelle façon avait-elle quitté Sétif pour Alger, afin de suivre son mari? Avait-elle parcouru le trajet à pied comme les soldats français? Nous venons de quitter la gare de Borges d'où à Redji, et j'ai dû me lever très tôt ce matin, je me sens glisser vers le sommeil, je vois les files de soldats qui suivent les sentiers de la montagne, une jeune fille aux pommettes hautes et à la longue chevelure frisée les suit. Est-ce un rêve éveillé ou suis-je endormi? Je sursaute, ramené à la réalité du train par une conversation bruyante qui s'anime non loin de moi, de l'autre côté du couloir de jeunes hommes, bientôt rejoint par un troisième, discute avec colère, me semble-t-il, mais je ne sais pas quelle en est la cause, quand il s'exprime en arabe. Pourtant, de temps en temps, un mot ou une expression en français vient émailler la conversation. Panne d'électricité, puis panne, non, pas du tout, pas du tout, donc elle va suivre cette conversation. Bon, on va pas la donner en entier. Alors, donc elle va arriver à Sétif, cette jeune femme, dans cette ville d'Afrique du Nord. Elle rencontrera une rencontre qui sera très bénéfique. Mais je vous laisse découvrir la fin de ce roman particulièrement intéressant qui se déroule en partie à Grosjac, que l'auteur Mireille Picaudou en paillant, je connais bien, oui, voilà, parce qu'elle nous donne quand même quelques renseignements sur cette ville du Périgord. Alors, pour en revenir à cette histoire de pont, puisqu'il y a la Dordogne quand même à traverser, je dois dire que l'essor sarlanais, donc le journal, si j'arrive à lire, du pays, du vendredi 19 avril, donne quand même toute une page d'informations. Et voilà ce qu'elle nous dit, une belle histoire de pont qui relie. Alors l'inauguration du pont réhabilité entre Karsakaliak et Grosjac a attiré des milliers de personnes vendredi 12 avril sous un ciel clément et des étoiles. On a mangé, dansé, admiré le feu d'artifice avant de livrer le bitume aux impatients véhicules le lendemain. Alors il y a une photo aérienne qui est du conseil départemental de la Dordogne, et effectivement il y a des tables, il y a beaucoup de monde. Alors je crois qu'on va nous dire qu'il y avait à peu près 4000 personnes, ce qui fait quand même beaucoup de personnes qui sont venues pour l'inauguration de ce pont. Alors voilà ce qu'on nous dit, c'était l'endroit où il fallait être le vendredi 12 avril en fin de journée en Périgord noir. La foule s'était donné rendez-vous pour danser sur le pont de Karsak, Grosjac réhabilité après un an de fermeture. Cette fête populaire dépassait le cadre officiel et revêtait une dimension symbolique sur le tablier reliant deux berges de la Dordogne. Un vrai trait d'union entre le Périgord et le Quercy. C'est vrai que Grosjac, dès qu'on a traversé le village de Grosjac, qui s'étend le long de la route, et il y a la mouline, mais on passe de suite en Quercy. Et quand on est passé en Quercy, on fait peut-être, je sais pas moi, quelques centaines de mètres, un kilomètre, et il y avait un panneau, je ne sais pas s'il existe toujours, où il y avait marqué en Périgord, donc un lieu dit qui s'appelait en Périgord. Voilà, alors, donc je vais continuer, l'affluence est largement venue d'au-delà des deux communes, les véhicules étaient garés de plus en plus loin au fur et à mesure que la soirée avance, et c'est vrai que le stationnement ne devait pas être très facile. Voilà, alors, donc certains ont renoncé, ils ont fait demi-tour. Alors, alors le journaliste nous dit, j'ai avancé l'idée de cette manifestation, quand on a lancé les travaux, je savais que les gens des deux rives seraient tellement désireux de ce moment de partage de festivités communes que ce serait un succès. Il avait senti et monté l'intérêt en voyant les promenades dominicales des riverains sur les berges pendant toute la durée du chantier. Il y avait aussi l'impatience des utilisateurs du pont, particuliers et professionnels, l'inquiétude des commerçants sinistrés. Ils ont été indemnisés, hein, mais dédommagés, voilà ce que je disais, comme les qualifie Patrick Bonnefond, c'est le maire. La circulation sur ce pont, évaluée en moyenne à 2500 véhicules par jour, a été déviée pendant un an. Bon, voilà, j'ai de la famille qui habitait à Gourdon et qui faisait quand même un détour pour venir jusqu'à Sarlat. Voilà, on va quitter donc... On va quitter Grosjac, comme ça s'écrit. Et puis, je vous recommande la lecture de L'étrangère, donc de Grosjac, de Mireille Picaudou, en paillage, drame et secret de famille au cœur du Périgord. Et c'est édité par Terre d'Histoire. Voilà, et bien moi, je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine. Voilà, au revoir, et sortez pas sa parapluie, parce que je crois qu'il va faire orage. Voilà, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.